Alors, notre étude de ce matin est la suite directe de ce que nous avons abordé il y a un mois avec le chapitre 3 et même les tout premiers versets du chapitre 4 de la lettre aux Hébreux. D'ailleurs, donc, pour ceux qui le souhaitent, les CD sont disponibles pour vous ou pour d'autres personnes autour de vous. Alors, je ne vais pas reprendre en détail chacun des éléments que nous avons déjà étudiés et abordés en introduction dans les premiers chapitres 1, 2 et 3 de cette lettre aux Hébreux. Permettez-moi quand même cependant un bref rappel des grandes lignes de ce à quoi nous avons déjà abouti lors des chapitres précédents. À propos du premier chapitre et même du second, nous comprenons que l'auteur cherche à mettre en exergue la position du Messie et son titre de fils au-dessus des anges, à l'égal même de Dieu. Et son argumentaire, riche de nombreux passages vétérotestamentaires, c'est-à-dire de la Torah, des prophètes, indique que l'auteur possède une connaissance précise de ces textes et même de leurs interprétations par les rabbanim de cette époque. Et dès les premiers chapitres, l'argumentaire de l'auteur est très finement construit de nature à dénoncer de possibles erreurs théologiques relative à la nature du Messie et ou à même sa divinité. Et la lettre va continuer sur des arguments relatifs au culte lévitique, de même que l'équation du Messie avec le souverain sacrificateur, qu'on verra un tout petit peu aujourd'hui, et notamment donc dans les chapitres qui vont suivre. L'auteur de notre lettre s'est employé dans un premier temps à démontrer non seulement la supériorité du Messie Yeshua aux anges, mais également le rôle de celui-ci en tant qu'envoyé et souverain sacrificateur. Yeshua se place au-dessus de Moshe, de Moïse, et même de Josué et de tous les souverains sacrificateurs qui se sont jusque-là succédés. Ce afin d'accomplir une rédemption parfaite et éternelle pour tous ceux qui s'approchent par lui du sanctuaire pour être sauvés. Et la lettre témoigne de la compréhension du salut en Yeshua à une époque par des hommes et des femmes qui, comme nous, n'ont pas été les premiers témoins de la vie de Yeshua. Donc, ils ne l'ont pas côtoyé. Oui, Yeshua, c'est Jésus. Alors, voyons à présent notre texte, donc, dans l'Épître aux Hébreux, ou qu'on appelle aussi la lettre aux Juifs messianiques, parce que ces Hébreux, c'était des Juifs qui avaient cru dans le Messie. Donc, chapitre 4, verset 1. Je lis. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Alors, c'est sûr que si vous n'avez pas lu les chapitres qui précèdent, ça va être un peu, peut-être, plus difficile de suivre. Donc, je vous invite à la maison, peut-être, à relire ces chapitres qui sont pas forcément les plus faciles. Il est vrai que la lettre aux Hébreux n'est pas... peut-être le texte le plus facile à lire, parce qu'il est, riche de connotations, de rappels sur le vécu des Israélites dans le désert, sur le culte lévitique, sur les sacrifices, etc. Et il utilise une rhétorique rabbinique qui est assez singulière, que l'on ne retrouve d'ailleurs que dans le Talmud, étrangement. Le Talmud, c'est un peu plus tard, 6e siècle. Bon. Et donc, nous avons là un texte qui est construit de façon très fine, qui est écrit en grec à l'origine, mais dans un grec qui, dans l'ensemble de la Brit Hadasha, donc le Nouveau Testament, est la lettre qui utilise le grec le plus recherché, le plus fin. C'est un grec ultra-littéraire, si je puis dire. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la langue, mais qui, en même temps, maîtrise parfaitement la rhétorique rabbinique, ce qui peut paraître un peu étrange, mais qu'on retrouve notamment chez les Juifs d'Égypte, d'Alexandrie, etc., qui, à cette époque, 1er siècle, avaient une maîtrise parfaite du grec, mais en même temps avaient un rapport au judaïsme assez singulier, assez particulier. Je me permets donc de reprendre les premiers versets du chapitre 4, que nous avions déjà pourtant vu le mois dernier, où il est question de promesses et de repos. Des expressions, des termes en tout cas, qui sont très particuliers dans ces chapitres. L'auteur établit un parallèle entre deux situations bien différentes, séparées dans le temps et cependant parfaitement connu de ses lecteurs. Pour la troisième fois, le rédacteur cherche à interpeller ses lecteurs et, au-delà de ses lecteurs, à nous interpeller, nous. Il y a de la place, prenez place. Quelles sont ces deux situations mises en parallèle? La première, c'est le peuple qui vient de sortir d'Égypte, dans son incrédulité et sa désobéissance, refuse d'entrer dans le pays de la promesse, à savoir le pays de Canaan. Et il en résulte 40 années d'errance dans le désert et la mort progressive de toute une génération, ou presque, loin du repos promis que constituait, en quelque sorte, la terre promise à Abraham et à sa descendance. Donc ça, c'est la première situation, c'est le contexte d'Israël lors de sa sortie d'Égypte, donc bien longtemps avant la rédaction de notre texte. La seconde situation est d'une toute autre nature. Pour faire court, il s'agit de la promesse du salut par l'obéissance à la foi en recevant la parole de l'Évangile en Yeshua. La réception de ce salut, en quelque sorte, constitue aussi une sorte de repos. Alors, en ce qui concerne le salut, il y a une réalité présente et une autre, en quelque sorte, en devenir. Il y a un repos réel et immédiat pour qui accepte la promesse en obéissant à l'Évangile aujourd'hui. Et puis, il y a aussi un repos futur lorsque la promesse deviendra une réalité accomplie. Mais ici, la promesse semble être, en quelque sorte, l'expression d'un sursis, un temps de grâce, un temps favorable durant lequel la possibilité d'obéir à l'Évangile subsiste encore. Car lorsque la promesse aura, si j'ose dire, été consommée, eh bien le temps de la grâce aura aussi pris fin. Le « craignons donc » du tout premier verset de ce chapitre 4 résonne alors comme une mise en garde, un décret divin, appelant à réagir et ne pas négliger l'importance des conséquences que pourrait avoir une certaine apathie devant le dilemme proposé. Le peuple qui en son temps négligea la promesse, qui était aussi en même temps l'assurance d'un repos véritable, celui d'entrer dans le pays promis et de goûter à un certain repos, eh bien par sa désobéissance s'est trouvé, d'une certaine manière, privé de cette porte-là de salut. Mais s'est-il vu déposséder en même temps des grâces divines? Nullement. Il chemina dans le désert pour comprendre, d'une part, ce qu'il en coûte de désobéir à Dieu, et puis d'autre part, pour nous servir d'exemple. Le fait de ne pas entrer dans le pays de la promesse, de leur vivant, ne signifie pas que Dieu ne leur ait pas offert un temps de grâce dans le désert pour connaître finalement son salut. On peut s'étonner qu'une désobéissance n'ait pas conduit à la destruction de tout le peuple. Non, le peuple va survivre, si on peut dire, mais il va traverser ce temps dans le désert pour y apprendre bien des choses. Eh bien, c'est toute la difficulté qu'il y a à saisir dans le salut ou la désobéissance de quelques-uns et les conséquences sur l'ensemble d'une génération, en l'occurrence ici pour le peuple d'Israël. Josué et Caleb, qui avaient pourtant bien affirmé leur assurance dans la promesse divine d'entrer dans le pays de Canaan, souvenez-vous, sont les deux seuls qui n'ont pas décrié le pays quand il y a eu le rapport des explorateurs. Eh bien, eux ont été cependant contraints de patienter 40 ans dans le désert et finalement ne sont entrés dans le pays que très tardivement. Quand bien même toute une génération s'est trouvée reconnue coupable d'incrédulité, mais était-ce vraiment la somme, la juxtaposition de chacun de ces individus qui se sont trouvés désobéissants ou disons incrédules face au rapport des explorateurs ou la promesse de Dieu? On peut en douter quand même, on ne pense pas que ce soit forcément la somme de toutes les personnes. Eh bien pourtant, les conséquences ont été grandes et se sont étendues à l'ensemble du peuple. Et pourtant, même Moïse, même Moshé, qui n'entra pas dans le pays de la promesse, goûta cependant au repos divin. Et ce repos-là est assurément d'une autre nature, comme on va le voir dans un instant. Du reste, Moshe entrera bien dans le pays, mais bien plus tard et d'une manière totalement inattendue, lors de ce qu'on appelle la transfiguration de Yeshua, quand Pierre, Jean et Yeshua vont monter sur cette montagne et où l'apparence de Yeshua va être transformée dans une autre gloire et que vont apparaître également Moshe et Élie. Ça se retrouve dans Matthieu 17, versets 2 à 4. Donc Moshe était bien entré, si on peut dire, dans le pays de la promesse, mais évidemment pas comme on aurait pu l'imaginer ou l'attendre dans, au moment où il l'a vécu avec les Israélites. Et donc l'auteur de la lettre aux Hébreux ne souhaite en aucune façon que ses frères, les destinataires de sa lettre, négligent et la promesse et le repos qui leur sont proposés. Et il ira jusqu'à annoncer au verset 7, un petit peu plus loin, à l'instar d'autres avant lui, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, encore est le temps favorable. La promesse et le repos subsistent encore. Mais poursuivons au verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors là, l'auteur poursuit en reliant les deux situations en regard de la foi. Je n'entrerai pas dans la polémique qui a existé ici entre plusieurs traducteurs pour définir avec exactitude la nature du rapport entre la parole annoncée et la foi de ceux qui l'entendirent. Je préfère rester centré sur l'avertissement et l'actualité, si je puis dire, de l'exhortation de l'auteur. La bonne nouvelle annoncée aux Israélites, entre guillemets, dans le désert, est, selon l'auteur, semblable à celle qui leur a été proclamée à eux en ces jours. Or, il est une évidence que cette similitude ne s'applique pas au terme exact du salut exprimé dans les évangiles que nous connaissons. Sans doute faut-il comprendre dans la rhétorique de l'auteur que la corrélation entre les situations doit se lire par la nature des réponses données à chacune d'elles. Comme on l'a déjà vu, l'auteur de la lettre aux Hébreux reprend pour l'essentiel plusieurs versets du psaume 95 qui relate l'épisode de cette rébellion du peuple à Massa et Meriva. L'auteur du psaume exhorte ses contemporains à revenir à Dieu, invitant ces derniers à une attitude de cœur totalement différente de celle que leurs ancêtres ont eue lorsqu'ils ont été rebelles dans le désert. Relisons psaume 95, versets 6 et suivant. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriva, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ici, c'est le psaume 95, qui est repris très largement dans le chapitre 3, et ici même au début du chapitre 4. Notez au passage des verbes comme « venez »,« prosternons-nous »,« fléchissons le genou », »,« si vous pouviez écouter aujourd'hui », c'est l'interpellation du psalmiste, « n'endurcissez pas vos cœurs ». On y retrouve même la même actualité pressante que dans notre lettre aux Hébreux. « Si vous pouviez » et « aujourd'hui », on retrouve à la fois ce que Dieu est, c'est-à-dire, il est notre Créateur, psaume 95, le peuple dont il est le berger, et puis aussi le peuple que sa main conduit. Mais aussi la conséquence de cette rébellion persistante, ils n'entreront pas dans mon repos. Et ici, clairement, ça veut dire qu'ils n'entreront pas dans le pays promis, en Canaan. La réponse que Dieu attendait du peuple dans le désert n'est pas différente de celle qu'il attendait du peuple au premier siècle, lorsque cette lettre a été rédigée. Et pas davantage différente de celle attendue aujourd'hui à la prédication de la bonne nouvelle. La promesse nous invite à la foi dans le monde à venir, les Olam Haba. Le repos présent est alors l'expression, si on peut dire, des prémices de cette même réalité à venir. Le repos, c'est en quelque sorte déjà les Olam Haba qui vient, c'est-à-dire le monde à venir qui est déjà presque en prémisse dans notre cœur ou parmi nous. L'exhortation du psaume 95 ne semble contenir aucune indication relative à des conditions associées à la foi de celui qui revient à Dieu. Cependant, le verbe « shma », écouter, contient assurément une dimension active qui dépasse la passivité d'une simple écoute, comme vous pouvez le faire maintenant. La foi active de celui qui réfléchit ou qui fléchit les genoux ou se prosterne ou qui écoute la parole est décrite en totale opposition à la rébellion d'un peuple dont le cœur s'égare et qui refuse de connaître les voies de Dieu. Ici, c'est la réponse du cœur qui pose problème. La piété extérieure n'a de sens que si le cœur s'incline vers le Seigneur. Le prophète Jérémie et bien d'autres traduisent constamment cette idée que c'est du cœur que la réponse à Dieu doit venir. En même temps, c'est Dieu lui-même qui rend pérenne cette réponse en transformant les cœurs en sa faveur. Jérémie, chapitre 24, versets 6 à 8. « Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et je ne les détruirai plus. » Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Donc on a là à la fois Dieu qui agit pour transformer les cœurs et en même temps cette nécessité de l'individu de revenir à Dieu avec son cœur. Et le prophète Ézéchiel continue. Alors après Jérémie, Ézéchiel, au chapitre 6, verset 9 d'Ézéchiel, « En annonçant la réaction de ses serviteurs revenus à lui, qui se prendront eux-mêmes en dégoût, tout comme Dieu a eu cette génération en dégoût, eh bien, dans le retour à Dieu des Israélites, eh bien, c'est les Israélites eux-mêmes qui, dans leur retour à Dieu, se prennent ou prennent leur vie ancienne en dégoût. » De la même manière dont l'Éternel les avait pris en dégoût. « Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle. Et leurs yeux qui se sont prostitués à leurs idoles, ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes leurs abominations. » Et le prophète d'en conclure, mais un peu plus loin, au chapitre 11, verset 19, d'Ézéchiel, « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Mais poursuivons toujours dans notre chapitre 4 d'Hébreu, verset 3. « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Alors, pour la plupart des commentateurs et traducteurs, il s'agit bien ici d'un présent, même si le grec peut, en l'occurrence, admettre une certaine souplesse et permettre éventuellement un futur. Certaines traductions disent qu'il, pour nous qui avons cru, nous entrerons dans le repos. Mais ici, on pense plus, en tout cas la majorité des traducteurs, pour nous entrons dans le repos. Ceci étant, le contexte de l'exhortation est celui de l'instant présent, et de l'encouragement en rapport avec une attitude et ses conséquences immédiates. Je note en la référence inverse propre à la rhétorique de l'auteur, citant le psaume 95, il indique que leur foi présente engendre d'entrer dans le repos, tandis que pour leurs ancêtres passés, dans leur incrédulité et leur inclinaison de cœur vers le mal, eux n'entrent pas dans le repos. Donc, les uns entrent dans le repos, les autres n'entrent pas dans le repos. Et alors, il est parfois un peu étonnant, mais ça, c'est la rhétorique de l'auteur, où on ne s'exprimerait peut-être pas de cette manière, c'est de dire que nous, nous entrons dans le repos, tandis que, alors que les autres ne le sont pas, n'en font pas partie. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est une façon de s'exprimer qui est propre à cette rhétorique-là. Mais poursuivons, fin du verset 3 et début du verset 4 de Hébreux 4. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, parlant de Dieu. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. L'auteur de notre texte semble à présent partir dans une autre référence au repos, celui de Dieu en relation avec la création du monde. Alors, on a déjà évoqué dans le chapitre précédent cette référence à la création en six jours, représentant ce qu'on appelle en hébreu les melachot, qui symbolise les efforts vains des hommes à s'approcher de Dieu par le seul mérite de leurs actions. Notez que dans la tradition juive, les melachot sont ce qu'on appelle les travaux interdits durant le Shabbat. Or, ces travaux, il y en a 39 répertoriés par les rabbanim, sont tous reliés à l'activité de construction du Mishkan, du tabernacle, la tente de la rencontre. Et ils représentent en quelque sorte, pour les juifs, pas seulement pour peut-être les chrétiens, quoique je ne sais pas s'ils connaissent beaucoup ce genre de choses, mais en tout cas pour les juifs, ils représentent en quelque sorte symboliquement tout effort humain pour se rapprocher de Dieu. Donc il y a les melachot et donc les travaux interdits, qui eux sont autorisés dans la semaine, les six premiers jours, mais le Shabbat, ceux-ci sont interdits. Et donc symboliquement, ces travaux interdits représentent en fait toute velléité humaine à vouloir se justifier devant Dieu ou à se rapprocher par ses propres efforts. Le Shabbat, le septième jour, symbolise alors le repos dans lequel Dieu bénit la création et contemple avec satisfaction ce qu'il a créé, une œuvre de perfection absolue. Et alors, se soustraire au melachot, le jour du Shabbat, constitue donc un acte de foi pour ne se reposer, si l'on peut dire, que sur l'œuvre de Dieu, et non sur ses œuvres méritoires, quelles qu'elles puissent être. L'œuvre de Dieu a donc là une valeur infiniment plus parfaite que celle de l'homme pécheur, que l'homme pécheur peut produire. Le Shabbat est un repos véritable dès lors que l'œuvre magnifiée est non pas mes propres œuvres, mais celle parfaite produite par Dieu. Or, il y a ici plus que simplement la création de la terre avec tout ce qu'elle renferme. Entrer dans le repos de Dieu peut donc évoquer cette paix du Shabbat, cette contemplation des œuvres divines et l'abandon total de toute recherche personnelle pour se justifier. On comprendra donc que le Shabbat représente un signe et un symbole fort du retour à Dieu, comme semble l'évoquer le prophète Ésaïe dans le chapitre 56, verset 1. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Et ici, Dieu annonce, dans un premier temps, son salut, sa justice, pas la nôtre, la sienne. Aussi, les hommes de tous les peuples, avec Israël, se doivent de s'attacher à Dieu. Et au verset 2, « Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le Shabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. » Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec » car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes Shabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, pour tous ceux qui garderont le Shabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Ce texte prophétique annonce clairement l'incorporation des non-juifs dans le plan de salut, dans le plan de salut de Dieu. Mais ce que je veux surtout retenir est ici cette répétition symbolique de l'expression « garder le Shabbat » d'un côté et « persévérer dans l'Alliance » de l'autre. Ces deux expressions traduisent à mon sens tout ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux veut souligner dans ce chapitre 4. Le repos de Dieu est un modèle typologique pour nous qui sommes créés à son image. De même que Dieu s'est reposé le jour du Shabbat, eh bien nous, de même, devons entrer dans son repos. Or, l'entrée dans le repos de Dieu nous fait goûter au véritable repos, c'est-à-dire l'affranchissement par rapport à l'œuvre de nos mains pour nous reposer sur l'œuvre de Dieu seul. Car il ne saurait être question de recevoir la promesse, c'est-à-dire l'espérance de notre salut, sur la base de nos œuvres imparfaites. C'est donc sur l'œuvre parfaite de Dieu que repose notre assurance d'entrer dans son repos. Or, c'est par la foi que seuls quelques Israélites de cette génération, donc dans le désert, ont reçu l'assurance de la part de Dieu de goûter à ce repos dont la promesse leur donnait seulement un aperçu. Mais poursuivons, verset 6, Hébreux 4, 6. « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns... » Alors bon, qu'est-ce qui se passe là ? Excusez-moi. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Alors ici, l'auteur de notre lettre, dans ses versets 6 et 7, montre clairement que la promesse dépasse le seul cadre de l'entrée en Canaan, tel que mentionné dans Exode ou dans le psaume 95 que nous avons lu tout à l'heure. L'entrée 40 ans plus tard, de la seconde génération d'Israélites, ne rendra pas la promesse caduque. Aussi devons-nous discerner un second niveau de compréhension de la dite promesse et du repos dont il est question. L'auteur veut clairement relier son exhortation et son avertissement du moment, c'est aujourd'hui du verset 7, à une disposition de cœur qui a manqué à ses ancêtres en leur temps. La désobéissance des uns, avec ses conséquences lourdes, doit pousser les croyants d'aujourd'hui à agir tout autrement. Josué, au verset 8, n'a pas fait entrer le peuple dans le repos. D'ailleurs, la conquête du pays, si je puis dire, n'a pas été certainement de tout repos. Mais c'est que l'essentiel de cette notion de repos est ailleurs que dans la seule appropriation du pays. L'entrée dans le repos de Shabbat dont il est question au verset 9 est directement articulée au verset suivant quand est présenté Dieu se reposant de ses œuvres. et nous-mêmes de nous reposer de nos œuvres en entrant dans le repos de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça paraît un peu compliqué. Les Israélites, en leur temps, n'ont pas accepté les termes de la promesse, c'est-à-dire de l'alliance, et ils se sont rebellés contre Dieu. Seuls quelques-uns ont cru, et l'on peut dire que c'est par la foi, comme on le verra au chapitre 11, mais ça, dans un avenir plus lointain, qu'ils ont reçu le repos de Dieu. Le repos de Dieu étant en quelque sorte l'effet de l'acceptation sans réserve de la promesse divine. Or, relatif au Shabbat et la manière dont Dieu s'est reposé à propos de sa création parfaite, il résonne comme une évidence que l'œuvre dont Dieu s'est reposé n'est pas en premier lieu l'herbe bien verte ou une source d'eau bien limpide. Dieu s'est reposé de l'œuvre de rédemption qu'il avait préparée d'avance dès avant la fondation du monde. Pour nous qui avons reçu la promesse dans les termes de la nouvelle alliance, entrer dans le repos de Dieu n'est autre que de nous reposer de nos œuvres, à nous, pour bénir Dieu dans son œuvre, à lui. Or, le Shabbat, dans sa célébration perpétuelle, est une invitation permanente à mettre de côté nos œuvres, vaines ou méritoires, pour tourner nos regards vers l'œuvre de Dieu, celle qui nous sauve. Et en ce sens, nous pouvons dès à présent entrer dans le repos de Dieu. Poursuivons au verset 11. Empressons-nous, d'autres traductions disent, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Entrer dans le repos de Dieu demande paradoxalement, pour le croyant, un certain effort. Une démarche active pour ne pas tomber dans la désobéissance ou, comme l'évoquait déjà le verset 1, pour ne pas arriver trop tard. C'est que la foi, pour reprendre les termes de notre texte, entrer dans le repos de Dieu, ne laisse pas le croyant oisif ou sans activité. L'apôtre Pierre le traduit en d'autres termes avec un avertissement assez semblable au rédacteur de la lettre aux Hébreux. On va lire 2 Pierre, chapitre 1, les versets 5 à 11. « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour, car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Yeshua, le Messie. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, le Messie, nous sera largement accordée. Alors, il y a assurément une vigilance, en même temps qu'une persévérance dans l'action qui s'impose aux croyants. Le repos dont il est question est en quelque sorte une saine transpiration, qu'il faut relier à l'obéissance et la pureté d'une conscience lavée de toute souillure. Poursuivons, verset 12. Car la parole de Dieu, c'est un verset qui est souvent bien connu, mais bon. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Oui, je sais, je passe souvent de psaume 95 et d'autres passages des prophètes avec notre passage de Hébreux. L'auteur n'avait pas mentionné jusque-là formellement la parole de Dieu. Or, l'image de l'épée à deux tranchants qui vient juger les consciences, qui vient au-delà des apparences finalement, qui vient au-delà des actes que l'on peut voir, qui juge les consciences, qui vient donc juger les consciences, doit, ici dans notre passage de notre lettre aux Hébreux, marquer les esprits et résonner comme un ultime avertissement afin que les croyants demeurent fermes et vigilants. C'est quand même ce que l'auteur veut faire, veut exhorter à ses interlocuteurs. Ce verset est aussi là comme une transition vers une étape ultérieure, car il ne faut pas perdre de vue la trame dans laquelle il s'inscrit ou s'inscrit le développement de ces différents chapitres. Yeshua est le Messie qui, en statut, dépasse celui des anges, Moïse et même Josué, en ce qu'il fait entrer l'homme dans le véritable repos de Dieu. L'œuvre dont il est à la fois le sujet et l'auteur, est parfaite et suffisante pour nous assurer une rédemption éternelle. Il nous faut donc aborder à présent la manière dont la rédemption est accomplie. Car si Yeshua est bien au-dessus de tout, le processus par lequel nous sommes rachetés et pardonnés, eh bien ici l'auteur va commencer à le développer sous la forme du culte lévitique, sur la base, en tout cas en arrière-plan, du culte lévitique. Ce qui peut surprendre et qui dépasse de loin tout ce que les Israélites pouvaient comprendre jusque-là, c'est que pour une rédemption plus excellente, il fallait un sacrifice plus excellent, mais aussi un sacrificateur plus excellent aussi, dont l'action ne puisse être contestée et dont la pérennité dépasse celle des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Poursuivons, verset 14, Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Yeshua, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. La conjonction introduit ici une évidente conclusion. Puisqu'il en est ainsi, Yeshua, qui en statut est au-dessus de tous, est en quelque sorte le mieux placé pour nous faire véritablement entrer dans le repos de Dieu. Yeshua est celui qui incarne la promesse, la réalisation de notre salut. L'auteur, en une phrase, résume la démarche qui a été celle de Dieu. Yeshua est le souverain sacrificateur, le Kohen Hagadol, on dit en hébreu, hein, celui qui va entrer une fois par an dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur qu'il nous fallait pour tenir ferme dans notre foi. Pourquoi ? D'abord parce qu'il vient du ciel. Yeshua a traversé le ciel. Or, ce qui vient du ciel relève d'une excellence plus grande que ce qui provient de la terre et qui, par nature, n'est qu'éphémère. Ensuite, qui plus est, il a traversé le ciel. Peut-être faut-il y voir ici l'indice d'un témoignage visible auprès des êtres célestes eux-mêmes. Hypothèse, hein, pas de certitude absolue là-dessus, mais le fait d'avoir traversé le ciel montre que c'est autre chose, c'est quelqu'un de plus grand que Aaron et tous ses successeurs. Il s'agit rien de moins qu'une réponse non plus de Dieu au cri du prophète quand il dit, Ésaïe 63, verset 19, « Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux !» Quelle réponse, quel cri du cœur du prophète, chapitre 63, verset 19, quand il dit « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Les montagnes s'ébranleraient devant toi. Et puisque Yeshua, fils de Dieu, est supérieur aux anges, à Moïse et à Josué, eh bien sa médiation ne peut être que supérieure à la leur. Le souverain sacrificateur était le médiateur visible de tous les Israélites qui, une fois l'an, à Yom Kippour, venaient donc au-delà du voile, présenter le sang et faire la kapara, c'est-à-dire l'expiation, pour lui et tout Israël. Yeshua est donc le souverain sacrificateur venu du ciel pour accomplir la rédemption de nos âmes. Il est aussi la parole de Dieu qui va jusque dans nos consciences juger ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Dans notre verset, toutefois, l'auteur n'entre pas encore dans l'énoncé du processus d'expiation par le sacrifice et le sang versé. Il va y venir dans les chapitres qui suivent. On ne verra pas aujourd'hui, mais dans la fois suivante. Il souhaite mettre en avant la raison même qui doit pousser ses lecteurs à tenir ferme dans la foi, car le prix payé par Yeshua pour nous sauver a été au-delà de toute mesure. L'auteur développe les arguments en faveur d'un effort manifeste des croyants à tenir ferme dans leur foi. Il n'est pas là pour les enfoncer, il est là pour les relever et pour les inviter à tenir ferme. Yeshua a quitté la gloire céleste pour s'abaisser à notre niveau et compatir à notre faiblesse. Et il était nécessaire qu'il agisse ainsi afin que nous soyons encouragés dans notre foi. Verset 15, Hébreux 4, 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il est vrai que la longue lignée des souverains sacrificateurs, par leur humanité et leur faiblesse, était tout à fait en mesure de compatir à nos limites, comprenant parfaitement nos chutes, puisqu'eux-mêmes y étaient soumis. Eux-mêmes donc étaient soumis au même trébuchement dans leur foi, que nous. Ceci étant, contrairement aux souverains sacrificateurs qui se sont succédés jusque-là, Yeshua a été un sacrificateur exemplaire par la victoire qu'il a remportée sur la tentation et le péché. Était-il plus facile pour le Fils de Dieu de remporter la victoire sur le péché parce qu'il était Fils de Dieu ? Sans doute. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux veut mettre ici l'accent sur la parfaite humanité du Messie Yeshua, qui, comme nous, a été soumis aux mêmes épreuves, j'allais dire aux mêmes contraintes. Mais lui a été victorieux jusqu'à la mort. Et si lui a été victorieux jusqu'à la mort, nous pouvons l'être aussi. Et c'est justement sur ce point que je me demande si les premiers lecteurs de cette lettre n'étaient pas tout simplement soumis à une épreuve et une persécution telle, à cause de leur foi, qu'ils craignaient tout simplement pour leur vie. On ne connaît pas le contexte, on l'a déjà vu ça il y a plus de 6 mois, dans le premier chapitre, en introduisant cette lettre, on ne connaît pas l'auteur par son nom, on ne connaît pas les destinataires, on peut que supposer qu'il s'agissait de croyants juifs dans le Messie, mais on ne connaît ni leur contexte, on sait que c'est certainement une assemblée locale quelque part, mais où, on ne sait pas. Alors étaient-ils des croyants qui étaient soumis à une pression énorme, je ne sais pas, des autorités, des Romains peut-être, je ne sais pas, qui les amenait peut-être à se dire « Est-ce que je dois persévérer ?» Et ici, l'auteur vient et leur dit « Mais non, tenez ferme, parce que... » Il y en a un autre qui a tenu ferme. La peur de la mort, la tentation de renier le maître pour surmonter l'épreuve ou toute autre tentation de péché devait tirailler ses frères. Contrairement aux apparences, ces premiers chapitres ne condamnent pas les lecteurs de la lettre. Il s'agit moins d'une mise en garde que d'un encouragement à tenir ferme. Oui, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, car le Messie Yeshua, souverain sacrificateur, supérieur aux anges, à Moshe et à Josué, est parfaitement en mesure de nous faire surmonter les épreuves du moment. Alors, il nous faut conclure. On n'a vu que 16 versets, mais bon, c'est comme ça. Une fois de plus, le texte est chargé de références qui parfois nous dépassent. Nous n'avons qu'effleuré quelques versets, mais quelle densité dans ce texte. Plus je scrute ces versets, plus je réalise combien les premiers lecteurs de ces chapitres nous ressemblent et combien nous leur ressemblons. Le repos de Dieu comporte bien des aspects, il y a bien sûr une dimension temporelle, et il est indéniable qu'ici-bas, nous pouvons goûter à ce repos-là. Le Shabbat en étant une illustration à l'instar de ce que Dieu exprime au travers de la création. En même temps, dans une perspective eschatologique pour Israël et ceux qui embrassent la foi d'Abraham, l'instauration du royaume messianique sera assurément un autre repos qui pour l'heure semble difficile à décrire. Et il en va aussi d'une autre dimension spirituelle que l'on comprend aisément pour qui se repose sur l'œuvre de Dieu pour son propre salut. la mort étant une délivrance et l'entrée dans un repos dans l'attente de la résurrection. D'autres dimensions donc. Quoi qu'il en soit, l'auteur de la lettre aux Hébreux s'inscrit avant tout dans un aujourd'hui et une actualité qu'il souhaite paisible, un encouragement pour ses lecteurs afin de tout à la fois entrer et demeurer dans le repos de Dieu. Eh bien, puissions-nous goûter à ces mêmes certitudes et cette même assurance en nous approchant devant le trône de la grâce de Dieu. Le développement de l'auteur de la lettre aux Hébreux va se poursuivre dans les chapitres suivants par l'énoncé théologique très dense qui consiste à démontrer la suprématie d'un sacrifice sur tout autre, celui de Yeshua, le Messie. Voilà, je suis arrivé, dépit de quelques fausses manips.